Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames, Messieurs, nous allons donc reprendre le cours de notre exposé. Lors de la dernière conférence, vendredi passé, je vous avais proposé de faire un petit exposé de résumé, mais aussi de considérations nouvelles sur la conception que nous avons aujourd'hui de l'histoire de la transmission de l'Avesta. La question étant, bien sûr, comment ce texte nous est-il parvenu entre les mains ? Comment s'est-il transmis au cours des siècles ? Comment le possédons-nous et que devons-nous penser de son histoire ? Les deux conclusions auxquelles nous étions arrivés, c'est que cette conception-là, telle qu'elle s'est progressivement modifiée dans la réflexion des différents spécialistes depuis maintenant une dizaine d'années, nous impose deux conclusions. Ça nous impose deux conclusions. La première est que nous devons ne pas tenir compte a priori de la conception d'un Avesta sassanide, d'un immense thésaurus de textes avestiques collectés par les Sassanides. Cette collection a bien existé, mais nous ne la possédons pas. Elle est parallèle à la petite collection liturgique que nous possédons. Et elle n'est pas nécessairement plus ancienne, ce qui fait que l'histoire de l'Avesta sassanide ne nous apporte pas un éclairage direct sur l'histoire de la collection liturgique que nous possédons. Ça ne veut pas dire que le témoignage sassanide n'ait pas son intérêt. Mais nous devons le traiter dans cette perspective. Et nous allons voir, à certains égards, que parfois, ça nous amènera à faire des considérations d'une certaine importance. La deuxième conclusion, c'est que le texte du Yasna, les petites collections liturgiques comme les Yasht ou le corps d'Avesta, qui sont des rituels, bref, la question ne se pose pas avec la même acuité, mais de ce que j'ai appelé le récitatif de la liturgie longue, c'est-à-dire le texte du Yasna, avec ses extensions possibles, il y en a trois, le livre du Visprat, le livre du Videvdat, la grande liturgie est télescopique, elle est à géométrie variable, ce rite a un sens. Ce n'est pas le lambeau d'un Avesta perdu, c'est un assemblage cohérent et délibéré. Donc son arrangeur, qui n'est pas son auteur, les textes sont bien plus anciens que l'arrangeur, a disposé les textes avec une intention. Et cette intention-là, c'est un de nos devoirs scientifiques, bien sûr, de le reconstituer. Alors, maintenant je passe au passé le plus récent. Depuis un an et demi, c'est ce que nous faisons. Sans savoir, n'est-ce pas ? Lorsque j'ai annoncé mon cours d'il y a deux ans, j'avais l'intention, il y a deux ans, d'examiner deux problèmes d'actualité qui étaient d'un certain intérêt. C'était le traitement qu'Éric Peyrard venait de réserver au texte appelé Homestorm, le grand éloge du Haoma, qui vient assez vite dans le courant du récitatif de la liturgie longue. Et d'autre part, d'examiner soigneusement une hypothèse qui venait d'être défendue par Xavier Tremblay, à savoir qu'il existait entre l'avestique ancien et l'avestique récent une couche linguistique, enfin une couche linguistique intermédiaire qui eût été le moyen avestique, si on accepte l'hypothèse de Tremblay. Ce sont ces deux examens auxquels nous avons procédé. Mais cela il se fait que par le hasard de l'actualité, ceci nous amène, n'est-ce pas, directement au problème du sens du Yasna. Car le Homestorm, d'une part, se situe au début du Yasna, ce que j'appelais la zone des déclarations, si vous voulez, la zone moyenne-avestique, immédiatement après le Homestorm. Nous sommes donc en possession d'une vue relativement cohérente des préliminaires de la grande liturgie. Pas complètement, tout au moins jusqu'au Yasna 15. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais reprendre les éléments dont nous disposons aujourd'hui pour comprendre cette liturgie et quelles sont les conclusions que nous avons déjà pu tirer ou les précisions que nous devons apporter aux conclusions que nous avons tirées, car ces choses sont neuves. Il faut y réfléchir encore. Souvent, les opinions se modifient, pas l'opinion du même homme, la mienne en l'occurrence, hein, parfois aussi de nouvelles hypothèses viennent à l'esprit. Alors, la grande liturgie du yasna, bon, vous savez, le yasna, sans les intercalations du vice-prat, nous en parlons chaque fois qu'il le faut, n'est-ce pas? Nous l'avons fait pour la zone des déclarations, justement. Mais la grande liturgie du yasna est un grand récitatif composé de 72 chapitres. 72 chapitres. Le corpus ancien, qui est le cœur du récitatif, texte privilégié, sacré entre tous, probablement, pas plus ancien que les autres, de plusieurs siècles, hein, par sa composition. Eh bien, ce corpus ancien est figé au cœur du récitatif. C'est le centre de la liturgie, c'est le centre du texte. Il est composé, il parcourt le yasna depuis le chapitre 28, avec le chapitre 27-13, qui est une sorte de formule liminaire en langue en vieille avestique, jusqu'au yasna 34. Ce sont les gathas, c'est-à-dire le vieil avestique métrique. C'est un texte en vers. Puis, les gathas sont interrompus par un texte en prose. Yasna 35, mais commence seulement à la deuxième phrase, jusqu'au yasna 41. Le yasna 42 est une intercalation en avestique récent. C'est le texte dit du Yasna Haptankhaiti. C'est son titre, et c'est un titre avestique, ce qui est déjà relativement rare, comme Gata, qui signifie chant. Le Yasna Haptankhaiti signifie le sacrifice en sept chapitres. Sacrifice en sept chapitres, et c'est un texte en prose. C'est un texte en prose, dans le même dialecte ancien que les Gata. Après le Yasna 43, jusqu'au Yasna 53, mais il faut en exclure le Yasna 52, qui est aussi une intercalation récente, le texte des Gata reprend, toutefois sur une métrique différente. Hein, les métriques sont parfois différentes. Donc à nouveau, le texte des Gata, des chants métriques, et il faut ici, de même qu'il y a une formule liminaire, il y a une formule conclusive, 54.1, formule en vieille avestique. Voilà le corpus. Sur 72 chapitres, comment se dispose le corpus ancien. Donc, tout le texte, n'est-ce pas, tout le texte qui occupe le premier chapitre, qui va du premier chapitre au Yasna 27-13, doit être considéré comme le préliminaire du sacrifice, le préliminaire du sacrifice. Or, que nous dit-il ? Quelles sont les manipulations du rituel, nous ne les connaissons pas. Nous les connaissons, bien sûr, par le monde moderne. Nous les connaissons par des textes descriptifs d'une époque plus récente, hein, à partir de l'époque moyen-perse. Mais si le texte est plus ancien, les manipulations, elles, nous ne les connaissons pas exactement. Elles ne sont pas données. Hein, mon collègue John Scheidt me disait, avec raison, que j'étais dans une situation très exactement opposée à la sienne. C'est pas car lui sait ce que font les ritualistes romains, mais il ne sait pas ce qu'ils pensent, parce qu'ils ne le disent pas. Ils connaissent les opérations, mais ils ne connaissent pas la philosophie des opérations. Nous, c'est très exactement l'inverse. Nous ne savons pas ce que ces prêtres font, mais nous savons ce qu'ils pensent. Au moins, nous disent-ils ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font. Hein? C'est donc une situation malaisée où parfois, bon, nous allons essayer de faire de notre mieux. Hein? Donc, les premiers, on peut considérer que jusqu'au Yasna 15, puisque notre examen a été jusque-là, jusqu'au Yasna 15, les préliminaires du sacrifice sont occupés par trois textes, en général. Trois textes qui sont, à l'origine, indépendants les uns des autres, qui ont été assemblés en préliminaire du Yasna. Le premier texte que nous avons analysé il y a une dizaine d'années, celui-là, ça remonte à un passé plus lointain, est un texte litanique. C'est un texte litanique qui occupe les chapitres 1 à 7. Alors, l'opération ici consiste à énumérer les dieux qui portent le titre de Yazata, c'est-à-dire les dignes du sacrifice. Les dieux sont énumérés. Et ils sont énumérés deux fois dans chaque chapitre. Ils le sont deux fois, de deux manières successives. La première énumération associe le nom des dieux aux temps rituels qui leur sont consacrés. Dès l'époque du matin, c'est pour telle divinité. Le moment de midi, c'est pour tel autre. Et ainsi, on couvre une période qui est probablement une période de 24 heures. Donc, les temps rituels sont associés au nom des dieux. La seconde énumération associe le nom des dieux aux textes sacrificiels qui leur sont consacrés. Nous avons donc une énumération de titres de textes que nous possédons ou que nous ne possédons plus, mais là, nous y reviendrons. Et c'est une double opération, n'est-ce pas, qui est possible, qui est fondée sur un fait pourtant hasardeux, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le nom, que le temps rituel et le texte sacrificiel, le texte sacré, est désigné par le même mot. C'est le mot ratu, le mot ratu. Le mot ratu qui représente l'indien urtu a deux sens hérités. Ce sont les sens du mot indien lui-même. Ça désigne toutes les périodes récurrentes du temps. Le matin, le midi, le soir, etc. Ce sont évidemment des ratus, des périodes récurrentes du temps. Mais c'est aussi un texte d'autorité, un texte d'autorité divine. C'est pas lorsque le texte qui décrit dans le Rig Veda le grand sacrifice du cheval, l'Ajvameda, il dit qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, il dit, voilà la règle, voilà le urtu, voilà la règle divine telle qu'elle a été énoncée, voilà comment il faut procéder. C'est donc un texte d'autorité. Alors vous voyez, le mot ratu s'applique aux deux choses, s'applique au temps rituel, s'applique aussi aux textes sacrificiels qui vont servir à faire l'éloge des dieux. Or, le titre avestique, car nous le possédons, ce texte s'intitule lui-même, se fonde naturellement sur le mot ratu, et le texte donne son titre, il s'intitule le Vispe Ratavo Mazishta. Tous les ratus les plus grands, tous les ratus les plus grands, tous les ratus les plus grands, c'est le titre avestique du texte. Alors, la procédure sacrificielle en cours, la procédure de l'énumération est la suivante. Dans le premier chapitre, le sacrifice est annoncé. Il est annoncé. Et la volonté de l'organiser parfaitement, lui donner une organisation parfaite, est affirmée. Ce sont deux opérations qui portent un nom hérité du vocabulaire indo-iranien du sacrifice. Le Rig Veda présente déjà les mêmes notions. Hein. Ceux d'entre vous qui ont fait du sanskrit les connaissent peut-être. L'annonce du sacrifice porte en védique le titre de Nivid, la Nivid, l'annonce du sacrifice. C'est ce verbe qui sert à faire l'annonce. Nivaidayemi, dit le sacrifiant avestique, c'est-à-dire j'annonce. Quant à l'organisation parfaite, c'est une notion que vous connaissez aussi, c'est le samskara. Samskara, en avestique, hankara, nous ne le possédons pas, le mot. Nous avons hankurti, c'est un autre dérivé, mais dans le texte que nous avons, puisqu'il s'agit de conjuguer, le sacrifiant dit je donne une organisation parfaite à mon sacrifice. Il dira hankarayemi, verbe dénominatif, verbe formé sur ce nom-là. Donc nous avons affaire au prolongement hérité d'un vieux culte indo-iranien. Ensuite, les énumérations reprennent. Ce sont les mêmes. Hein. Ce qui change, c'est la clausule verbale qu'il introduit. Le Yasna 2 fait un naïese yeshti, ce que nous ne comprenons pas bien. C'est une énigme, nous ne nous entendons pas. Je pense qu'il s'agit d'introduire sacrificiellement, mais c'est une traduction contextuelle, n'est-ce pas ? Et s'attarde tout particulièrement sur deux choses nouvelles, n'est-ce pas ? Deux éléments indissociables d'une cérémonie, c'est-à-dire le barsman qui est le faisceau de baguette que le sacrifiant tient en main et déploie peu à la manière d'un éventail, si vous voulez, et d'autre part la zautra, le barsman est un mot neutre, pas d'équivalent indien assuré. La zautra, ça nous connaissons, c'est un dérivé du verbe qui signifie faire couler, hein, faire une libation. La zautra, c'est l'offrande liquide. Quand je dis qu'on ne sait pas ce qu'ils font, voici un petit exemple. Déjà, nous ne savons pas en quoi consiste pour l'auteur avestique, hein, cette offrande liquide. Si nous en mettons un comparatisme indo-iranien, ce qui est sage, il est très probable qu'il s'agit de beurre fondu. Hein, c'est très probable qu'il s'agit de beurre fondu qui servira aux libations. Enfin, le Yasna 3 reproduit la même énumération en ajoutant toutes sortes d'autres offrandes. Entre autres, le Miazda, Mieda en indien. Le Miazda, c'est l'offrande solide. Nous sommes donc devant la même indécision quant à la nature exacte de ce dont il s'agit. Vous savez, dans les rituels d'aujourd'hui, il s'agit de pain, de pain. Quoi qu'il puisse s'agir, il peut aussi s'agir de morceaux de viande, parfois, n'est-ce pas, de boulettes de viande. Enfin, c'est une nourriture de ce type. Mais il est très probable que dans le grand rituel avestique ancien, n'est-ce pas, il s'agit de la victime sacrificielle. Hein. D'ailleurs, le texte le dit. Voici le miasda, dit-il. Voici le miasda, dit le sacrifiant. Et je l'appelle. Il ne dit pas que c'est. Hein. Il dit, je l'appelle vache généreuse. Je l'appelle vache généreuse. Il présente les choses comme s'il lui donnait un nom. Ça permet probablement de varier, n'est-ce pas, le type d'offrande, le type de victime sacrificielle, mais en l'assimilant dans tous les cas à la victime sacrificielle par excellence, qui est une vache enceinte. Hein. C'est la victime sacrificielle par excellence dans le rituel, et nous en avons la preuve dans les gathas, n'est-ce pas, où on fait allusion à ce type d'offrande. Mais d'autre part, on ne sacrifie pas à chaque fois une vache, bien sûr. Hein. Des groupes sociaux plus limités peuvent avoir, n'est-ce pas, des difficultés économiques à sacrifier une vache enceinte chaque jour. Hein, Donc, certains textes, en avestique encore, n'est-ce pas, que nous possédons, font-ils le catalogue des animaux qui peuvent servir au sacrifice, qui peuvent être immolés. Donc, il devait y avoir le mot vache généreuse et sans doute un terme symbolique, n'est-ce pas? Oui, et ainsi, durant sept chapitres, sept fois, chapitre par chapitre, l'énumération des dieux, celle des temps rituels et celle des textes, celle de certaines offrandes, sont reproduits, sont énumérés de la même manière. Alors, je vous ai dit, nous devons toujours avoir une double représentation des choses. Nous devons envisager le Yasna comme un texte complet, cohérent, hein, bâti par un arrangeur conscient. Cela, certes, c'est pas, voilà ce que nous avons. Mais nous devons aussi, nous sommes tout de même aussi des philologues de l'avestique, hein, et nous devons aussi nous poser la question de savoir si ces textes, tels que l'arrangeur les a recueillis, les a introduits dans son grand ensemble liturgique, si ces textes-là n'avaient pas subi des manipulations. Il est évident qu'ils en ont subi, n'est-ce pas ? Les textes avestiques ne brillent pas par leur homogénéité, certainement pas. La plupart laissent voir pas mal, n'est-ce pas, des traces des bricolages, les traces des collages. Alors, pour cette nivide, je vais l'intituler comme cela, hein, pour ce visperatavo mazishta, qu'en est-il ? Bien, il y a trois questions que nous devons nous poser sur la composition du texte, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, est-ce que à l'origine, la nivite, n'est-ce pas, n'était pas, est-ce que le réseau verbal en nivide et en hankara n'était pas le seul ? Et est-ce qu'on n'a pas, avec un autre réseau verbal, ayeseyeshti, avit, yazamaide, etc., est-ce qu'on n'a pas étendu la procédure d'invitation divine. C'est possible. Ensuite, il est possible aussi qu'il y a un contraste tout de même, il y a un contraste étonnant, n'est-ce pas, dans ce texte. C'est le contraste entre des notions héritées qui nous paraissent si anciennes. l'annonce du sacrifice, son organisation parfaite, etc. Ces vieux concepts qui dérivent tout droit de la préhistoire indo-iranienne, n'est-ce pas, et un texte qui, dans son réseau énumératif, les temps rituels, les dieux, etc., doit être, ne me faites pas, un texte, je ne vais pas dire tardif, ne me faites pas dire qu'il y a des textes récents, des textes tardifs, c'est une distinction que je récuse pour l'Avesta, mais je suis obligé, bien entendu, d'accepter, n'est-ce pas, l'idée de chronologie relative. Or, la Nivite que nous possédons se situe bas dans cette chronologie. Elle se situe bas dans cette chronologie parce que ce texte-là suppose l'existence d'autres textes. Ben oui, si l'on invoque les dieux avec les textes sacrificiels qui leur sont consacrés, il faut que ces textes existent, n'est-ce pas ? Et généralement, le texte est évoqué par sa formule liminaire. Il fallait donc qu'il y ait déjà existé, à l'époque de cette Nivite, hein, une bibliothèque avestique, disons, hein, orale bien sûr, mais il fallait disposer d'une grande quantité de textes avestiques déjà. Bien, alors, ce contraste nous donne à penser que peut-être, n'est-ce pas, les clausules verbales sont réutilisées. Elles proviennent de modèles plus anciens et que, pour leur composition, elles ont, pas par l'arrangeur du Yasna, hein, c'est distinct, mais que l'auteur de cette Nivite telle que nous la possédons a réaménagé son énumération en maintenant un réseau verbal ancien. Ce qui nous donne aussi une idée d'hétérogénéité des différents chapitres de cette Nivite, peut-être, n'est-ce pas ? C'est le fait que nous avons sans doute le titre ancien de Visperatavo Mazishta, oui, mais nous avons aussi les titre traditionnel que la tradition mazdéenne depuis l'époque sassanide a donné à ces textes. Or, il donne plusieurs titres, il change de titre, n'est-ce pas ? Le Yasna 1 forme un ensemble qui d'ailleurs porte le nom de son verbe, Nivaidayemi Hat, le chapitre Nivaidayemi. C'est une pratique qui existe beaucoup dans la tradition mazdéenne que de désigner un texte par ses premiers mots, nous connaissons ça aussi. Le deuxième chapitre est le Barsomiasht, c'est le nom du moyen perse du Barsman, c'est-à-dire le sacrifice du Barsman. Et puis, les autres textes de 3 à 8 s'appellent Sroj Darun, Dodarun, c'est désigne le pain consacré à la divinité Srausha, Sroj Darun, je pense, étant bien entendu que le mot Darun, qui désigne le pain, provient d'un mot avestique plus ancien, qui est Drauna, où les indianistes reconnaîtront le védique Dravinas, et Dravinas est un mot qui désigne la ration rituelle, c'est pas la ration rituelle, c'est-à-dire la part de la victime qui est attribuée à telle divinité. Donc ici, se méfier aussi de cette sorte de substitution du pain à toutes les offrandes, à toutes les offrandes solides. Bien, alors ça, ce sont l'annonce du sacrifice. J'ai un problème. Je vous le donne tout de suite. Nous en reparlons. C'est une chose dont il faudra redébattre. J'ai un problème qui est le suivant. Si généralement, le mot Nivite a été très bien, le mot Nivaidayemi, et plus exactement le verbe, a très bien été discuté par Darmstetter dans sa déjà vieille, n'est-ce pas, traduction française de l'Avesta de la fin du 19e siècle, quoique Darmstetter ne savait pas encore à cette époque, ce sont des travaux ultérieurs de l'allemand Scheftelowitz qui l'ont démontré, que ce concept de Nivite était aussi indien. Était aussi un concept spécialisé du rituel indien. Darmstetter ne le savait pas. Bien, donc, il suffit de réintroduire cet acquis dans l'exposé de Darmstetter. Alors, il y a quelque chose qui, je vous avais remarqué, je me suis efforcé dans mon exposé de m'en tenir au verbe annoncer pour le traduire. Car il y a un verbe que Darmstetter et bien d'autres, n'est-ce pas, en allemand, ou bien d'autres traducteurs de l'Avesta vont introduire et dont je ne sais trop, en l'état actuel des choses, ce qu'il faut penser. Est-ce que l'annonce équivaut à une invitation ? Car Darmstetter traduit « j'invite ». Bartholomée traduit « ich lade ein » en allemand. Est-ce que cette annonce comporte une invitation? Vous allez me dire que je fais peut-être un peu de... Bon, que je discute sur des têtes d'épingle, peut-être, mais ce n'est pas, l'invitation aux dieux n'est pas faite, n'est-ce pas? Les dieux sont mentionnés à la troisième personne. Hein, et l'invitation viendra plus tard. Il y a un deuxième procès d'invitation dans le préliminaire du Yasna. C'est la raison pour laquelle je soulève le problème, sur lequel peut-être nous allons, en cours d'exposé, acquérir quelques lumières. Alors, dans l'analyse que j'avais présentée, le résumé que j'ai présenté il y a un an de nos investigations sur le début du Yasna, il m'est apparu que j'avais commis une erreur, ou plutôt que je n'avais pas vu un fait significatif. C'est le Yasna 8. J'ai écrit, ou j'ai dit, je l'ai écrit aussi entre-temps, que les hommes, en définitive, c'est-à-dire le collège sacerdotal, ou l'organisateur, le commanditaire du sacrifice, apparaissent très tard dans le préliminaire du Yasna. Et je situais cette apparition avec les intercalations du Vispere 3 et 4 avant la dernière opération du pressurage du Soma, ce qui nous situe au milieu du Yasna 11. Au milieu du Yasna 11, donc assez tardivement. La place est occupée par l'énumération des temps rituels, des textes sacrificiels, des offrandes, du hauma, etc. Et puis les hommes interviennent très tard. L'investiture du commanditaire et l'investiture des officiants, des officiants spécialisés, me paraissait très tardive. Non, c'est une erreur de perspective. Je l'ai rectifiée de cette manière-ci. Je voudrais vous en entretenir. Ce qui m'échappait dans cette vision des choses, c'est l'importance du Yasna 8. Donc, après les énumérations de la Nivite. Le Yasna 8 est un texte très court. C'est un texte très court qui comporte beaucoup de répétitions, mais qui tout de même nous livre trois phrases importantes. Et ce sont trois phrases qui font intervenir les sacrifiants. Elles ne sont pas banales. Ce ne sont pas des opérations banales. Car si je comprends le texte, si je prends le texte avestique au pied de la lettre, c'est littéralement l'entrée en scène des officiants. Hein, comme si personne n'était encore là. Il fallait bien que quelqu'un y soit. Sinon, qui eût récité la Nivite? Mais dans l'ordre de la philosophie du sacrifice, les officiants n'interviennent pas encore. C'est le Yasna 8 qui les fait entrer en scène. Et leur entrée en scène se produit d'une manière métaphorique, n'est-ce pas, puisque le mot utilisé pour définir, pour exprimer cette entrée en scène, c'est le mot même de la propagation aurorale. Le mot de la propagation aurorale. Lorsque l'aurore se répand dans le ciel, freureti, la propagation de l'aurore. Or, c'est l'action que posent les officiants. C'est pas leur entrée en scène dans l'ère sacrificielle est métaphoriquement rapportée à la propagation de l'aurore. Deux idées accessoires qui surviennent dans les deux phrases suivantes, mais ce n'est pas ce qui nous retient, je les signale. Darmstetter, là aussi, a été très sensible à cet aspect de ce texte. L'ambiance est menaçante. L'ambiance est menaçante. Semble-t-il, jouer le rôle d'un officiant du sacrifice n'est pas sans risque. Il y a des risques. Lesquels? Eh bien, que peut-être, en touchant à certaines offrandes, quelque chose peut arriver. On pense à une intoxication alimentaire, éventuellement, n'est-ce pas? Ou par le hauma, éventuellement. Mais c'est une menace qui est prise en compte et qui est jugée et qui est présentée à la manière d'une sorte de jugement de Dieu, n'est-ce pas? L'officiant à qui un mal adviendrait en touchant aux offrandes serait dénoncé comme n'étant pas adéquat. Bien, ça c'est la première menace. Il y a une deuxième menace qui est à la fois plus explicite et moins explicite. Plus explicite parce que le mot est prononcé. Il y a possibilité d'un châtiment. Il y a possibilité d'un châtiment. Et l'une des conditions de ce châtiment, l'une de ses causes, ça pourrait être, par exemple, que l'officiant à qui l'on va demander de prendre la parole, puisqu'il va y avoir une répartition des rôles de parole, eh bien, l'un des officiants qui refuserait de réciter ce qu'on lui demande encourt un châtiment. Donc, cette entrée en scène des officiants n'est pas sereine. Hein. Il y a des risques, il y a des châtiments possibles, c'est ce que l'on dit. Et puis alors, il y a un acte. Ils doivent manger du miasda. Donc l'offrande solide qui a été énumérée à partir du Yasna 3, les officiants reçoivent l'injonction d'en consommer. Consommer quarata miasdam, manger ce miasda. Ils sont appelés hommes. Nar, homme, hein, ce qui signifie qu'ils ne sont pas encore officiants. Ils sont des hommes comme les autres. Ils sont des hommes, mais rien de plus, n'est-ce pas? Et le premier acte sacrificiel qu'ils vont poser, c'est consommer de l'offrande solide, quelle qu'elle soit. Darmstetter, qui a beaucoup commenté les pratiques rituelles qui sont afférentes dans le texte, a assimiler ceci à une communion. Je ne crois pas que ce soit cela. Je crois que ce qui m'a échappé dans cet examen du début du Yasna l'an dernier, et aussi d'ailleurs lorsque j'ai commenté avec vous le Wurmstorm, c'est la chose suivante. Je crois que le processus, je vais essayer de le reconstruire, je le soumets à votre appréciation, mais j'ai eu l'occasion d'en débattre déjà avec l'un de mes anciens élèves, Philippe Swinen, qui m'a donné de très bons arguments, n'est-ce pas, en faveur de cette hypothèse, parce qu'on la retrouve du côté indien. Pourquoi ces prêtres qui vont officier, ne sont-ils encore que des hommes et doivent-ils d'abord manger du pain? Eh bien, l'opération suivante, ce sera le pressurage du hauma et sa consommation. Or, le hauma, c'est comme nous l'avions perçu, hein, c'est le prototype des hommes. Il est même, d'une certaine manière, l'ancêtre des hommes. C'est un dieu qui a beaucoup de choses en commun avec les hommes. La première, il est composé d'un corps et de pensées, comme les hommes. Composé de corps et de pensées. C'est un dieu plante, on le pressure, donc il a un corps. Mais lorsqu'on consomme le jus de hauma, l'effet sur la pensée est exaltant. Le jus de hauma transcende la pensée. Hein? Certes, hauma a un corps et une pensée, comme les hommes, mais l'un et l'autre sont d'une nature transcendante. Hauma a un corps parfait, il a une pensée parfaite. Le consommer donne à l'officiant un corps parfait. L'officiant le déclare en buvant. Il dit, voilà, ce corps me paraît maintenant devenu huraouda, c'est-à-dire il a la belle taille. Et la belle taille, pour un mazdéen, pour un iranien de cette époque, c'est 15 ans. C'est-à-dire que l'officiant qui boit le hauma a l'impression de retrouver son corps de 15 ans, son corps parfait, pas de 15 ans. Et sa pensée y est exaltée. Sa pensée y est exaltée de la banale pensée, le manar, c'est pas la pensée, le manas indien, ce nom commun de la pensée, bah, cette pensée se transforme et devient l'entité divine Vohu Mana, la bonne pensée, qui est une entité divine. C'est l'effet que produit le Hauma. Autre chose aussi, Hauma a des traits communs avec les hommes. Il a un corps et son corps connaît toutes les phases de développement d'un corps humain. Hauma germe avec l'eau, il germe, il grandit, il pousse. On peut le tuer. Le pressurer, c'est le tuer. Hein? C'est donc un dieu mortel. On le tue en le pressurant. Ce n'est pas moi qui l'invente. Les textes insistent sur cet aspect, n'est-ce pas? Hauma est frappé. Hauma est tué quand on le pressure. Les textes indiens ne disent pas autre chose. Ensuite, c'est un dieu terrestre. Ce n'est pas banal dans le mazéisme. Il n'y a pas beaucoup de dieux à la surface de la terre. Il n'y en a pas, même en principe, n'est-ce pas? Sinon les eaux, mais c'est un autre problème. Or, c'est un dieu qui vit à la surface de la terre. Il vit sur le sol, comme les hommes. Il n'est pas céleste, il est terrestre, comme les hommes. Autre caractéristique des hommes, ce qui tient son corps, bien sûr, il se reproduit. Il se reproduit. Les textes insistent fort sur cet aspect trauma. Hein. Il répand ses semences et il se répand, comme dit le texte, sur le chemin des oiseaux. Hein. Il se multiplie sur le chemin des oiseaux. Donc, trauma est l'archétype des hommes. Alors, voici ce qui se passe, je pense, ici. C'est que les sacrifiants qui pénètrent sur l'aire sacrificielle mangent pour manifester leur nature humaine. Comme trauma, ils ont été créés par le Dieu. Ils ont grandi. Hein, ils ont grandi grâce à la protection du Dieu. Et le Dieu aussi, les textes nous le disent, les dieux les nourrissent. Les dieux assurent leur nourriture. Alors, ces hommes adultes, hein, il faut être adulte pour être sacrifiant, parce qu'ils sont des hommes, mangent. Hein, ils mangent. Ils manifestent une nature qui les met en contact avec une nature identique, mais malgré tout divine, et qui est celle de trauma. Dès lors, et que va-t-il se produire dans l'Iasna 9? Eh bien, justement, ce sont les premiers développements du Iasna 9, n'est-ce pas? Trauma, c'est un petit récit, trauma s'approche de Zarathoustra, qui est un homme, hein, qui est le modèle des sacrifiants, et qui est justement en train de faire ce que les sacrifiants, eux aussi, sont en train de faire. Hein, hein, nettoyer le feu, réciter les gathas en préparatif du sacrifice, hein, marmonner les gathas, du moins la récitation basse probablement, n'est-ce pas? Or, donc, la nature du sacrifiant va les rapprocher à la fois de la nature de trauma, se rapproche à la fois de la nature de trauma et de la nature de Zarathoustra. Zarathoustra interroge trauma, il vient l'interrogatoire, c'est un genre, le frashna, je traduis par interrogatoire, ça n'a rien de policier, hein, mais ce sont des questions posées par Zarathoustra au dieu qui est venu auprès de lui, va d'abord porter sur l'anthropogonie. Et justement, les quatre premiers pressureurs de trauma sont le père des quatre héros qui, les premiers, manifestent une véritable nature humaine, qui ne sont plus des rejetons divins, n'est-ce pas? Car nous avons de bonnes raisons de penser que s'il leur naît un fils, grâce à l'acte de pressurage, en réalité, ce fils apparaît sur l'aire sacrificielle pendant le pressurage. Hein, ce n'est pas la naissance de ces hommes n'est donc pas sexuée, hein, ils naissent du sacrifice. Et c'est un détail d'une extrême importance parce que c'est la rupture de la continuité biologique entre les dieux et les hommes. Les ancêtres pressureurs étaient des rejetons divins. Hein. Ils descendaient des dieux. Le fait que leur descendance, elle, née d'un pressurage de trauma, interrompt la lignée, interrompt la consanguinité avec les dieux. Les hommes sont devenus les hommes. Ils sont devenus les hommes. Et leur prototype, leur modèle humain, c'est trauma. C'est trauma. Bon, le texte du trauma, c'est un vieux rituel de pressurage qui a été introduit dans l'Iasna. Nous avons examiné sa cohérence interne il y a 2 ans. Nous l'avons fait sur la base de la métrique, si vous vous souvenez. Là aussi, nous avons pu voir que ce n'est pas un texte homogène. C'est un texte qui a été remanié diverses fois, mais qui a toujours été remanié, n'est-ce pas, afin d'en obtenir un sens délibéré, un sens concerté. Or, que se passe-t-il dans le rituel du trauma? Eh bien, ce qui se passe est calqué naturellement sur les opérations du pressurage, qui d'ailleurs sont évoquées dans l'ordre chronologique. Dans le rituel moderne, on ne pressure plus à ce moment-là. Hein, il n'y a pas d'opération dans le rituel moderne. Il n'y a pas d'opération pendant la récitation du Rumstom. Mais, bien sûr, le texte original devait accompagner un rituel de pressurage. La chronologie des opérations en est un signe sûr. Dans le texte avestique, toujours, hein, je ne parle pas du rituel d'aujourd'hui, dans le texte avestique du Iasna, un officiant boit 2 fois. Il boit 2 fois. Il y a 2 gorgées de trauma. La première gorgée de trauma transcende sa pensée. Il boit le hauma et sa pensée manas devient vohu mana. Il y gagne la science des textes. Il pénètre, il peut affirmer qu'il comprend le sens secret des textes sacrés. C'est sa science textuelle qui est en formation avec la première gorgée de hauma. La seconde gorgée de hauma, qui clôture le texte, la seconde gorgée de hauma est accompagnée de la demande eschatologique. C'est la première fois que le but définitif du sacrifice est affirmé, d'ailleurs. Sacrifice, son but décisif, son grand but, il n'est pas très compliqué. Les opérations sont compliquées, les procédures sont compliquées, mais ce grand rituel a pour but d'assurer la survie dans le paradis du commanditaire et de ceux qu'il représente, et des officiants eux-mêmes, bien entendu, n'est-ce pas ? Or, la demande eschatologique est formulée en même temps que la seconde gorgée est prise, n'est-ce pas ? C'est « donne-nous l'excellent état ». L'excellent état, ce qui signifie l'état des âmes qui ont été agréées et qui se trouvent dans le paradis. En réalité, ce processus comporte un double mouvement d'immolation et double mouvement d'immolation et de résurrection. Pressuré Hauma, début du Yasnadis, c'est le tuer. On le frappe et on le tue. Le jus est filtré de toutes sortes et subit toutes sortes de manipulations, mais la plante n'existe plus. Le corps du dieu est anéanti. Or, lorsque l'officiant boit, que dit-il ? Eh bien, il ne dit pas « je bois du hauma ». Il dit à hauma « je te donne mon corps ». C'est-à-dire qu'il introduit, en introduisant hauma dans son propre corps, il donne son corps à hauma. La première gorgée, c'est une résurrection. C'est la résurrection du dieu, mais c'est l'immolation. Mais c'est aussi l'immolation de l'officiant lui-même. C'est la première résurrection. Or, la seconde, la seconde gorgée de hauma, elle, qui va de pair avec avec la demande eschatologique, c'est évidemment transposer dans le futur la résurrection de l'officiant et de ceux au service desquels il officie. Donc, il y a un double mouvement d'immolation. En réalité, boire le hauma pour le sacrifiant, c'est donner son corps à hauma, c'est donc procéder à sa propre auto-immolation. Telle est la place du Homestome dans les préliminaires du Yasna. Troisième partie des préliminaires jusqu'au Yasna 15, c'est cette zone de texte qui ne porte pas de titre, n'est-ce pas, contrairement à Homestome, qui ne porte pas de titre et que les commentateurs désignent par le verbe initial des diverses déclarations, et dont d'ailleurs la mise en chapitre est flottante. C'est la zone que Tremblay a appelée la zone moyenne avestique, et celle que j'ai appelée l'an dernier avec vous, la zone des déclarations. L'immolation du chantre dans la zone des déclarations est... À ce moment-là, les intercalations du vice-prêtre ont eu lieu, le collège sacrificiel est organisé, les rôles sont répartis, les prêtres ont reçu, comme je vous l'avais dit, l'investiture, et à ce moment-là, ils vont faire un certain nombre de déclarations. La première déclaration est une déclaration d'allégeance à ce qui découle de la bonne pensée, puisque cette bonne pensée a été obtenue par la première gorgée de Hauma, c'est-à-dire une allégeance à ce qui découle de la pensée, c'est la triade, puisque sous la pensée vont s'organiser, excusez-moi, je le mets en indien, manar la pensée, vachar, la parole, le texte de la liturgie, et le shautna, c'est-à-dire l'acte ou le geste de la liturgie, pensée, mot, geste. Donc la triade que l'officiant manifeste pendant le sacrifice, et cette triade, il la met immédiatement au service d'une première offrande faite au Dieu, auquel il s'adresse directement, pour la première fois. C'est la première fois qu'il parle au Dieu, et comme il l'a donné, il achève son immolation, comme il a donné son corps à Hauma, il donne au Dieu son nushtana. L'ushtana, c'est une part immatérielle de l'individu, c'est une âme, si vous voulez, hein, si vous voulez employer un mot très général, c'est une âme, c'est en tout cas une faculté immatérielle de l'individu, je crois que ça désigne très exactement la faculté de mouvement autonome, ce qui fait qu'un être vivant bouge, n'est-ce pas, sans se soumettre aux lois mécaniques de la physique, mais avec sa propre autonomie. Or, cette faculté-là, qui constitue une âme, elle est mortelle. Elle est mortelle. La mort de tous les jours, pas la mort l'a fait disparaître chez les êtres humains. Et c'est le don qu'à ce moment-ci, le sacrifiant fait aux divinités directement. Il a donc réellement procédé à son auto-immolation de façon complète. Il n'est plus seulement dépouillé de son corps, mais il est aussi réduit désormais à son âme immortelle, son âme moi immortelle, son nirvana. Cette opération a lieu pendant la récitation d'une formule qui est centrée sous l'appellation du verbe phrastouiller. Deuxième déclaration, c'est la longue déclaration Fravarané. Fravarané, le sacrifiant, proclame son intention de réserver le sacrifice qu'il va rendre à Ahura Mazda. À Ahura Mazda et aux entités appelées Ameshaspenta accessoirement. C'est donc ici l'expression d'un choix. Pour formuler ce choix, il faut être mort, n'est-ce pas ? Car l'officiant qui prononce le Favarané est un mort. Symboliquement, il est mort. Hein ? Il a donné son corps à Rama, il a donné son âme mortelle au Dieu. Hein ? Or, Favarané, le verbe Fravar, ce qui signifie « je choisis », hein, mon choix, c'est ceci, dit-il, offrir le sacrifice à Ahura Mazda, le verbe « choisir », var, avec le préverbe « fra », c'est le nom, c'est le verbe qui a servi à dériver le nom d'action « fravashi ». Avec une petite, ce n'est pas tout à fait sensible parce que il se manifeste ici une petite particularité phonétique qui est la transformation du RT intervocalique. Bah, en vieux perse, le mot est beaucoup plus clairement fravarti. Alors là, on voit immédiatement l'équivalence avec le verbe fravarané. Mais c'est ce choix exprimé par fravarané a évidemment un rapport avec la fravarti du sacrifiant, n'est-ce pas ? La fravarti, c'est-à-dire sont une de ses âmes immortelles, mais pas l'âme qui sort du corps à l'instant de la mort, l'autre âme, n'est-ce pas ? L'âme qui reste en permanence chez les dieux et qui existe depuis toujours, c'est son âme préexistante, son âme céleste, n'est-ce pas ? Or, ces âmes célestes, que chaque homme en a une, n'est-ce pas, ont fait quelque chose de très important à l'origine des temps. Lorsqu'Ahura Mazda a introduit l'ordre dans l'univers, hein, et que cet ordre s'est heurté à l'entreprise mauvaise d'Angramainyu, eh bien, les Fravashi, donc les âmes immatérielles des hommes à venir, ont sacrifié. Elles ont sacrifié. Et ce sacrifice primordial, ce sacrifice des origines, qui a soutenu Mazda dans l'introduction de l'ordre dans le monde. Hein. Ce sacrifice original, c'est le sacrifice des Fravashi. Et pour le sacrifiant, prononcer la formule en Fravarané, c'est renouveler un choix. Ce choix qui a donné son nom aux âmes préexistantes des hommes à l'origine du monde. En fait, le sacrifiant renouvelle le choix des âmes préexistantes. Hein. Il se connecte donc à sa deuxième âme immortelle, hein, sa Fravashi. C'est une connexion à son âme immortelle. Je sais, c'est un vieux projet que nous avions. J'ai promis un jour à mes auditoires, mais il y a fort longtemps, qu'il y aurait un jour un cours sur les Fravashi. je le remets d'année en année, je crois qu'il viendra quand même, peut-être plus vite que nous n'y pensons. Mais bon, mais ce n'est pas clair. Pas si je ne le fais pas, c'est d'abord parce qu'il y a d'autres choses à faire, qu'on se laisse porter un peu par le hasard de la recherche scientifique, mais c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas bien toutes les... je ne domine pas bien toutes les données du problème. Il y a des choses encore, justement, dans le début du Yasna qu'il nous faut éclaircir avant d'approcher peut-être ces curieuses âmes préexistantes dont on ne voit pas très bien, c'est ce qui est gênant, dont on ne voit pas très bien à quel moment, n'est-ce pas, elles entrent dans un processus de réunification de l'être. On voit bien comment l'Urvan et la Daina dont nous allons parler se réunissent, nous le savons. Mais pour que l'être s'unifie, il faudrait que cette troisième âme aussi vienne, n'est-ce pas, se recoller aux autres en quelque sorte. Et ça, nous ne le savons pas. C'est quelque chose que je cherche à établir et je ne veux pas trop parler des Fravashi si je n'ai pas d'hypothèse à y mettre sur ce processus. Mais bien, passons. Alors, en tout cas, à la fin du texte du Fravarané, c'est la formule astouillée. Toutes les opérations auxquelles il vient de procéder ont permis au chantre de se constituer une daïna. Il en fait l'éloge par la formule astouillée, faire l'éloge de reconnaissance, l'éloge de la personne que l'on rencontre. Voilà, il a sa troisième âme, la dernière, la troisième âme immortelle est présente. Ce cadavre qui est symbolique, qui est l'officiant. Après les trois formules de la zone vieille avestique, a en quelque sorte mis en place le dispositif de ses âmes immortelles. Il s'est réduit à son Urvan, il s'est connecté à sa Fravashi, et par une procédure que je soupçonne d'être une immolation animale, il s'est donné une Daina, c'est-à-dire une âme féminine qui joue un rôle essentiel dans l'accès au paradis. En s'unissant à l'âme interne masculine, le Rouvan. Voilà, c'est ici que nous nous trouvons, n'est-ce pas ? Nous nous trouvons, j'ai résumé très rapidement le cours des deux dernières années en introduisant peut-être une idée qui n'était pas présente, n'est-ce pas ? C'est cette importance du Yasna 8 et de l'introduction lente du personnel humain dans l'univers sacrificiel. Désormais, le collège sacrificiel est constitué, les officiants ont acquis leur personnalité sacrificielle, ils vont donc s'adresser aux dieux. Ils l'ont déjà fait, n'est-ce pas ? Ils ont pu parler aux dieux pour leur offrir leur Ushtana. Là, le discours tenu aux dieux est direct. On s'adresse aux dieux. Désormais, le discours aux dieux va devenir systématique. Et c'est le début du Yasna 14. Nous l'avons envisagé en même temps. Là, le sacrifiant, en une formule qui est imitée du Yasna Haptankaiti, de l'Avesta ancien, déclare donc qu'il leur sert de sacrifiant. Voilà, je suis votre sacrifiant. Il peut l'affirmer parce que sa personnalité sacrificielle est désormais complétée. Et alors, nous retrouvons le problème que nous avons envisagé à propos de Nivit, n'est-ce pas ? Le Yasna 15.1, nous l'avions envisagé, c'est le dernier texte que nous avions envisagé, le Yasna 15.1, c'est autre chose. Le sacrifiant, n'est-ce pas, a acquis sa personnalité, alors il va procéder envers les dieux, en s'adressant directement à eux, à nouveau, n'est-ce pas, à un nouvel acte, qui est alors réellement l'invitation. Et l'invitation, c'est le verbe « asba », préverbe « a » et « sba ». C'est l'invitation des dieux. Et c'est une invitation très formelle, n'est-ce pas ? Le sacrifiant dit « Je veux vous inviter, vous, les Ameshaspenta, car il appelle les dieux Ameshaspenta, dans un terme collectif, dans cette zone des déclarations, immortel et bienfaisant, je vous invite en énonçant vos bons et beaux noms. » Donc, l'invitation est formelle parce qu'elle est énumérative. parce qu'elle va former liste, parce qu'il y aura une énumération de noms propres. Seulement, c'est la fin de la zone biavestique. C'est la fin. Désormais, nous allons... L'énumération va venir, mais c'est une énumération qui n'a plus rien de moyen avestique. C'est une énumération en avestique récent. Donc, il y a eu collage. Hein. Nous sommes à un décollage. Les trois premières parties des préliminaires du sacrifice, les trois premières parties du début du yasna sont closes avec le yasna 15. Nous allons repartir dans des textes de l'Avesta récent, des textes qui ont d'ailleurs leurs particularités. Nous allons les examiner dans les leçons qui viennent, n'est-ce pas, pour voir ce que cela veut dire. Mais cela a... je vais attirer votre attention sur le fait que nous nous trouvions ici à une charnière, à une importance singulière. Parce que l'annonce qui est faite par le sacrifiant, de mentionner le nom des dieux à qui il va adresser son sacrifice, nous ne savons pas, pour le chantre moyen-avestique, de quelle divinité il s'agissait. C'est une curieuse situation, et que l'on n'a pas souvent relevé pour l'Avesta. Pourtant, c'est la deuxième fois que ça arrive, chronologiquement, dans l'Avesta. Pas dans l'ordre des textes, mais dans l'ordre de la date des textes. Car le Yasna 51-20, l'avant-dernière gatha, le Yasna 51-22, excusez-moi, fait la même annonce. Pas dans le Yasna 51-22, le récitant, celui qui récite le texte, dit qu'il va procéder à l'énumération des noms, des divinités. C'est la dernière strophe, c'est la dernière strophe. Il n'y en aura pas d'autres. Nous n'aurons pas cette énumération. Hein? Alors, vous voyez, si l'on veut statuer sur la composition du panthéon de l'Avesta ancien, ou sur la composition du panthéon de la zone moyenne avestique, nous nous trouvons confrontés à la même énigme. Hein? Le texte s'achève par une formule qui annonce quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque, une énumération nominale, nominative. Donc, la composition du panthéon ne nous est pas donnée. Ce sont deux facteurs extrêmement curieux. Mais l'arrangeur du yasna, lui, il le fait, car il va introduire ici sa propre énumération. L'arrangeur du yasna disposait de textes avestiques plus récents, qui étaient à l'origine sans aucun rapport avec la zone moyenne avestique. Mais il sait très bien ce qui se passe, cet arrangeur. Vous voyez, il est conscient, n'est-ce pas? C'est une chose, c'est pas un lambeau, c'est pas une épave que notre yasna. Il sait très bien que ce qui vient de se produire, c'est que l'officiant a déclaré son intention de faire une invitation nominale. Eh bien, il va donner la sienne, et c'est un autre texte. Mais il va donner une énumération nominale de divinité. Et elle est très intéressante, comme vous le verrez. Alors... suite la semaine prochaine, si vous permettez. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.